À quoi tu penses?
Tout ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Aujourd'hui, il y aura bien sûr de la musique, votre agenda, on parlera éducation aux médias et à l'information aussi, ce sera en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on revient sur un projet porté par le département de la Vienne et qui se concrétise désormais à travers un site internet. Il s'agit de l'Atlas des paysages de la Vienne. Et pour en parler, on accueille Joëlle Pelletier qui est vice-présidente déléguée en charge du climat et du développement durable. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Effectivement, on a parlé de du travail sur l'Atlas des paysages, mais on va quand même faire une petite piqûre de rappel pour nos auditeurs et auditrices. Ça fait à peu près 2 ans hein, que vous travaillez sur cet Atlas, peut-être même plus ?
Un peu plus, même oui. Beaucoup. La démarche a été lancée en 2020, donc ça fait déjà 4 ans.
4 ans déjà de travail. Rappelez-nous au départ, qu'est-ce qui a été déclencheur ? Pourquoi lancer ce travail ?
En fait, le département de la Vienne était un des seuls de la Nouvelle-Aquitaine à ne pas avoir remis à jour son atlas des paysages, puisque c'était une démarche qui avait été lancée en 1999. Et comme on le sait, les paysages évoluent très vite, soit dans le cadre de leur cycle naturel, mais aussi sous l'impulsion des actions de l'homme. Et donc, on s'est dit que ce serait important par rapport aux enjeux actuels autour des paysages et des nouveaux dispositifs d'aménagement, de remettre à jour cet atlas de paysages.
Qu'est-ce qu'on entend en fait par paysage ?
Ben, c'est tout le patrimoine et tout ce qui va s'afficher au regard de chacun d'entre nous. Donc les unités paysagères sont composées de beaucoup de choses. On va regarder par exemple les enjeux de l'agriculture sur les paysages, les enjeux autour de la forêt, autour de l'eau, des routes, des chemins, tout ce qui va être urbanisme. Et puis sujet un peu plus contemporain, je dirais, c'est l'intégration aussi des énergies renouvelables dans nos paysages.
Et à quoi ça sert d'avoir un atlas des paysages sur un territoire ?
Ce que l'on souhaitait, c'est de pouvoir partager un outil de connaissance qui est accessible à tous, vous l'avez dit, le site internet, de façon à bien pouvoir partager tous ces enjeux et dans l'idée de renforcer l'attractivité économique, touristique et résiduelle. Les paysages sont un élément fondamental pour la qualité de notre cadre de vie. Et l'idée de cet atlas, c'est justement d'éveiller un peu les regards sur l'importance des paysages pour la qualité de notre vie.
Est-ce que ça peut aussi faire évoluer, vous parliez de changement climatique, est-ce que le fait d'avoir cet atlas, de se rendre compte de certaines réalités, ça peut faire évoluer après l'urbanisation, l'agriculture
Oui, tout à fait. En fait, le constat que l'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, les paysages qui sont sous nos yeux sont le résultat d'actions non concertées. Et l'idée de cet atlas, c'est bien d'avoir l'ambition de mettre en place de façon collective des stratégies pour préserver, gérer et transmettre les paysages. Donc l'idée, c'est de bien sensibiliser, faire prendre conscience de l'action de chacun d'entre nous, des acteurs du territoire sur les paysages.
Donc, il existait déjà ce genre d'atlas auparavant. Est-ce que vous avez déjà pu constater, comparer le travail d'avant et d'aujourd'hui et voir l'évolution de nos paysages ?
On a fait effectivement un diagnostic. Cet atlas, c'est quand même un certain nombre de photos. Mais je ne sais pas si vous avez été parcourir un petit peu là,
rapidement, mais il faudra que je m'y penche un peu plus.
C'est une source d'information qui est très riche puisqu'on voit justement l'évolution des paysages depuis, je dirais, le cadastre napoléonien. Donc c'est quand même intéressant de voir comment l'évolution des activités économiques, de l'urbanisation a pu façonner de façon différente. Différentes nos paysages. Donc justement, de regarder comment c'était auparavant et de voir l'évolution, je pense que c'est un garde-fou pour les actions, nos futures actions, de façon peut-être à restaurer, hein, puisqu'on parle de préservation, mais avant, la restauration parle des haies, beaucoup des haies. On sait ce qui a été fait au niveau de nos campagnes et qu'on essaie de réparer aussi aujourd'hui dans le cadre d'une politique plan art, par exemple, au département. Donc tout ça, c'est quand même je pense que le fait de pouvoir regarder comment c'était auparavant, différentes époques et maintenant, nous permettre de prendre conscience et puis d'éviter de retomber dans des travers que l'on a connus.
C'est vrai qu'il y a une politique publique peut engendrer une transformation de nos paysages. Il y avait donc à cette époque le fait de rassembler les parcelles pour pouvoir permettre la mécanisation de l'agriculture. Et ça fait totalement disparaître les haies et nos paysages ont totalement changé.
Exactement, et on en mesure aussi les conséquences sur les enjeux en eau, par exemple, puisque les haies avaient aussi cette capacité de rétention et de filtration de l'eau qui nous fait terriblement défaut et pour lesquelles on met en place des politiques publiques pour réparer ces sujets-là.
Quand vous parlez de restaurer des paysages, est-ce qu'il y a des paysages qui sont en voie de disparition, comme il peut y avoir des espèces en voie de disparition?
Je vais vous parler des sujets que je connais le plus, les zones humides. On le sait tous aujourd'hui que les zones humides sont en phase de disparition. Là encore, le département, on fait aussi avec l'État, il y a tout un inventaire des zones humides. Et on sait déjà qu'il y a certaines zones humides qui ne pourront pas être restaurées. Donc l'idée, c'est vraiment de se focaliser justement sur celles où ce n'est pas encore complètement perdu, et notamment pour sauvegarder nos paysages. La zone humide est quand même un élément marquant dans des grandes plaines céréalières, par exemple. Et que voilà, si on n'agit pas tout de suite, ça joue sur les paysages, mais pas que.
Donc, 4 années de travail, racontez-nous qui sont les acteurs, comment ça se construit un tel atlas?
Alors, on a évidemment cette démarche-là, c'est une démarche partenariale qui a été soutenue par l'ADREAL, par l'État, à 50%. On a aussi la Nouvelle-Aquitaine qui a contribué financièrement. Et puis après, on a des partenaires tels que le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, le CAUE, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Vienne qui a réalisé l'animation, puisque le département a confié effectivement l'animation au CAUE 86 pour tout ce qui a été le suivi, l'aide à la conduite de l'étude, la formalisation du cahier des charges. Donc c'était plutôt sous l'impulsion du CAUE. La gouvernance qui a été mise en place sur cet atlas du paysage a été constituée d'un comité de pilotage et d'un comité scientifique et technique. Donc le comité de pilotage, lui, réunit des élus, des représentants de toutes les intercommunalités, des acteurs du territoire aussi, représentant par exemple les associations environnementales, et puis évidemment des représentants de l'État. Et puis le comité scientifique et technique, lui, c'était plutôt composé de techniciens experts, les représentants des associations qui étaient aussi en copile, et puis toutes les structures ou organismes qui pouvaient soutenir ou coopérer sur le projet et nous apporter son expertise.
Et donc vous êtes rendu sur le terrain.
Oui. Alors j'ai quelques chiffres. Cet atlas de paysage, donc je vous disais que c'est une démarche lancée en 2020, mais sur cette période-là, on a eu 3 ans d'études. 6000 kilomètres ont été parcourus. 1400 photos, 1700 vues aériennes. Et en fait, ce qu'on souhaitait, c'était aussi pouvoir faire participer les citoyens, les habitants. Donc, il y a eu également des ateliers sur le terrain pour justement les questionner sur la perception des paysages, mais aussi les sensibiliser sur les actions que chacun peut mener et qui peuvent avoir un impact sur les paysages. Et donc, nous, après, entre le comité de pilotage et le comité scientifique et technique, on s'est réunis à peu près 16 fois sur ces 4 ans.
Alors ça a permis de déterminer 9 unités paysagères dans le département. Un petit peu, quelles sont leurs caractéristiques rapidement, peut-être
oui,
de chacune
oui.
Mais...
Disons qu'on a essayé justement de faire en sorte de trouver des noms, par exemple, à certaines unités paysagères pour les caractériser. Donc vous allez avoir, par exemple, les plaines de Neuville. Donc là, plutôt un paysage de plaine, mais on peut avoir des terres de Brande aussi, qui sont plutôt... au nord-est du département, les vallées, évidemment la vallée de la Vienne, la vallée du Clain, la vallée de la Creuse et de la Gartempe. Et puis après, on peut avoir plutôt des terres qui s'approchent plus de paysages liés au bocage. Les terres rouges du bocagère, plutôt dans le sud-ouest du département, et puis le bocage Montmorillonnais. Donc en fait, on peut avoir des plaines, des vallées, des bocages, et on voit combien le territoire de la Vienne peut avoir des paysages complètement différents.
Oui, auquel on ne pense pas forcément à cette variété. On pense que tout est plat, mais pas tant que ça.
Je dirais qu'on pense que tout est comme là où on habite. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir se promener sur le département, parce que si vous allez dans le Loudunais, bah, c'est un paysage qui est complètement différent de celui qui est de Montmorillon ou dans la vallée de la Vienne, dans le sud. Donc c'est vrai que c'est aussi, ça peut aussi, cet atlas, donner envie de découvrir un peu plus les paysages qui sont très différents dans notre département.
Et justement, à qui ça s'adresse maintenant, cet atlas ?
Alors, on a effectivement plusieurs populations pour qui on l'a fait, hein, les acteurs du territoire de la Vienne. Donc, dans un premier temps, on l'avait fait évidemment pour les élus. Je sais que certaines intercommunalités ont fait leur propre atlas du paysage. Le département a voulu justement pouvoir aussi contribuer à un outil avec une vision un peu plus macro sur l'ensemble du territoire, parce qu'effectivement, c'est intéressant de pouvoir voir aussi l'ensemble des paysages au-delà d'un territoire, d'une intercommunalité.
Et qui sont interdépendants, en fait.
Exactement. Et parfois, les paysages ne se limitent pas à la frontière d'une intercommunalité, ce qui est le cas, puisque à travers les 9 unités paysagères. Donc, pourquoi pour les élus ? Parce que, évidemment, les élus sont porteurs de décisions, font des choix en termes d'aménagement, d'urbanisation. Et l'idée, c'était justement de pouvoir éveiller aussi les regards et vraiment apporter un outil d'aide à la décision pour fixer les objectifs en matière de qualité paysagère dans tous les choix d'aménagement au niveau des élus. Et j'avoue que c'était aussi pour répondre à une demande par rapport à l'implantation des énergies renouvelables sur notre territoire. Hein. À la base, c'était aussi pour pouvoir faire prendre conscience de l'impact de ces installations sur nos paysages. Maintenant, il y a des dispositifs qui permettent aux communes de dédier des espaces, mais c'est notamment pour définir les espaces les moins impactants. Cet atlas est assez précieux pour les élus. Ensuite, autre population pour qui on l'a fait, ce sont les acteurs du territoire, donc tous les professionnels de l'aménagement. Et là, ça touche toutes les personnes qui peuvent faire un aménagement, que ce soit en matière d'agriculture, en matière de tourisme, en matière économique. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de faire prendre conscience sur le rôle de chacun dans l'avenir des paysages. Pas plus tard qu'hier, j'étais rencontrer un agriculteur à Bétine, donc dans le bocage, je pense, oui, c'est bon, bocage Montmorillonnais. Et en fait, il me disait, bah oui, moi, j'ai eu besoin d'implanter un hangar photovoltaïque. Au départ, on me proposait à côté de ma ferme, mais moi, j'ai pas voulu parce qu'il y avait vraiment un impact visuel qui était pas forcément heureux. Et donc, le fait de déplacer mon hangar un peu plus en contrebas faisait que c'était moins impactant visuellement, parce que moi, je suis amoureux des paysages autour de ma ferme. Et donc, ça, c'est...
Même individuellement,
À ça. Et donc, lui, c'était en termes d'agriculture, mais après, l'autre cible, c'était vraiment tous les citoyens, parce que chacun d'entre nous, on peut aussi prendre conscience d'un paysage qui nous entoure, et on a les moyens de pouvoir aussi les mettre en valeur et les faire évoluer, donc notamment en matière d'urbanisation. Hein, quand on veut construire peut-être un garage ou je ne sais quoi, ça peut être intéressant de se poser la question, mais quel va être l'impact de cette décision-là sur le paysage et sur le cadre de vie.
Donc, le site, c'est atlas-2-paysage-lavienne86.fr. Comment il a été pensé, ce site internet, pour mettre en valeur tous ces résultats ?
Alors, il a été pensé, vous pouvez l'attaquer sur de nombreux angles. Vous pouvez l'attaquer par unité paysagère, mais pas forcément que. Vous avez aussi des rubriques si vous souhaitez découvrir un peu tous les éléments généraux, historiques sur les paysages du département. Vous pouvez, c'est ce que je disais tout à l'heure, regarder un petit peu l'évolution des paysages, les photos. Vous avez une rubrique découvrir, des représentations, donc là c'est des iconographies des paysages de la Vienne. Vous avez ensuite la possibilité d'entrer par les unités paysagères, d'entrer par les enjeux paysagers que j'expliquais tout à l'heure, hein, agriculture, forêt, énergie renouvelable, eau et autres. Et puis après, on a aussi des rubriques pour mettre en évidence certaines thématiques qui peuvent intéresser certaines personnes. On a mis aussi en évidence des lieux particuliers. Et puis après, on a une rubrique qui permet d'échanger sur du vocabulaire, sur des définitions, sur l'évolution des paysages. Donc on peut rentrer par rubrique, on peut rentrer par unité paysagère, on peut rentrer aussi par enjeu. Donc c'est assez riche et l'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre à disposition de la connaissance sur les paysages.
Et ensuite, l'idée, ce serait de créer éventuellement un guide papier.
Voilà, donc le site internet a été mis en ligne il y a un mois à peu près, je crois que c'était le 3 mai. Et actuellement, nous travaillons sur un livre guide et qui sera distribué en septembre. Donc là, on est en cours de validation du bon à tirer. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un guide un peu comme un... comme, je dirais, un... Alors, je sais pas si... un guide touristique qui vous permet de découvrir pour, dans chaque unité paysagère les caractéristiques, mettre en valeur. Donc c'est vraiment quelque chose de très grand public et plutôt pour éveiller la curiosité et inviter à aller découvrir les paysages de la Vienne qui peuvent être vraiment différents en fonction de là où vous vous situez.
Donc ça c'est fait, on va dire, Joël Pelletier, le site est en ligne, le livre arrive. Quelle est la suite maintenant? Comment vous allez capitaliser sur tout ça?
L'idée, c'est évidemment de communiquer largement auprès des intercommunalités, de voir comment on peut ensuite travailler sur les politiques de stratégie paysagère. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir maintenir un peu le contact avec ces intercommunalités. Et puis aussi, la question qui se pose, qu'on s'est posée aussi en comité de pilotage, c'est comment on maintient aussi à jour ce site internet. On sait très bien qu'effectivement, c'est des choses qui... les paysages évoluent. Donc, on va s'attacher à faire en sorte que ce soit le cas, que ce soit qu'un atlas qui soit le plus proche de la réalité du terrain.
Un grand merci, Joël Pelletier, donc vice-présidente déléguée en charge du climat et du développement durable au département de la Vienne, d'être venue nous parler donc du lancement de ce site internet de l'Atlas des paysages de la Vienne. Le site, c'est atlas-2-paysages.lavienne86.fr. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Au revoir.
On continue en musique avec Liliane Canizares. Elle est violoniste, chanteuse et compositrice. Elle a créé un titre exprès pour la Journée mondiale des océans des Nations Unies.
Alma, espíritu, espíritu, alma. Quem escolhe quem tem uma alma?
Vamos dizer, não é que me detenga. Cromossoma XX, construindo uma leyenda. Conectando puntos, África y su herencia, echando luz en este mundo. We are, hey. Muchacha, levanta presión, que tú eres una diosa lista para arrasar. Muchacha, levanta presión, que tú eres una guerrera lista para triunfar. Muchacha, levanta presión, yo quiero ver a la cubana y a toda la guayana marcando conmigo este flow. De La Habana, Salvador.
No hay ninguém que possa nos parar. O céu é o limite, nós vamos chegar. Mulheres no comando, fazendo lucrar. A ancestralidade ninguém vai podar. Então erga sua cabeça, construa o seu legado. Seu tempo é agora, não esqueça seu passado. Vai, samba, jingue, zumba. Samba, jingue, zumba.
Vine pra contar de la história que cubra se compartir. Trataram de arrancar el árbol de raíz y no lo consiguieron. Y aquí estamos tú y yo, somos fuerza canción. Hasta vaque, hasta que si suena no puede parar. Soy de Nana Ewa. Muchacha, levanta presión, que tú eres una diosa lista para arrasar. Muchacha, levanta presión, que tú eres una guerrera lista para triunfar. Muchacha, levanta presión, yo quiero ver a la cubana y a toda la guayana marcando conmigo este flow.
Vamos pa'lante, un desierto que vaya. Vamos a decirlo, no es que no detenga. Cromosoma X, X, construyendo una leyenda. No, no es que no detenga. Ah, papá, no es que no detenga.
No hay que posa parar.
Muchacha, levanta presión, que tú eres una diosa lista para arrasar. Muchacha, levanta presión, que tú eres una guerrera lista para triunfar. Muchacha, levanta presión, yo quiero ver a la cubana y a toda la bahiana marcando conmigo este flow.
La bahía está presente, Woodstock está en casa.
Muchacha, levanta presión, que tú eres una diosa lista para arrasar. Muchacha, levanta presión, que tú eres una guerrera lista para triunfar. Muchacha, levanta presión, yo quiero ver a la cubana y a toda la bahiana marcando conmigo este flow.
De professionnel, je dirais.
Bizarre.
Ça, c'est bizarre.
C'est de toi en plus.
À l'occasion du Tour de France de BFM TV, Pauline et Colin se sont rendus à la rencontre des journalistes qui faisaient donc des ateliers en partenariat avec le CLEMI, le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Ils ont aussi rencontré des Poitevins et Poitevines pour les interroger sur leur rapport à l'information et aux médias.
Nous sommes allés rencontrer les Pictaviens et les Pictaviennes pour connaître leur rapport aux médias.
Je m'appelle Suzanne Rousset, j'ai 18 ans.
Alors moi c'est Alix Van Botmer, j'ai 21 ans.
Christophe Parent, j'ai 53 ans.
Émilie Young, 42 ans.
Je m'appelle Barbeau Gabin, j'ai 18 ans.
Stéphane Grévis et j'ai 25 ans.
Première question, faites-vous confiance aux médias ?
Les médias sur à la télé et tout ça, oui. Mais les médias sur les réseaux sociaux, pas trop.
Oui, enfin, je fais confiance en général aux médias.
J'aimerais vous dire que oui, mais de moins en moins.
Oui, je leur fais quand même plutôt confiance, ça dépend lesquels. C'est pas une confiance aveugle ni un chèque en blanc.
Ça dépend lesquels, mais oui en général.
C'est de plus en plus compliqué avec le monde polarisé tel qu'il est en ce moment.
Quelle est votre source d'information préférée ?
Je regarde jamais la télé, donc les réseaux sociaux.
J'aime bien Hugo Décrypte.
J'écoute beaucoup la radio, plutôt France Inter.
En partie la radio, et après ça, je peux lire aussi des articles sur Mediapart ou des articles que je trouve aussi sur certains réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux ?
Je dirais France Info. Tout ce qui est plutôt service public.
Est-ce que vous pensez que les médias vous éduquent ?
Ça m'a pas éduqué avant, mais ça m'éduque maintenant. C'est avec ça que je m'informe tous les jours, au quotidien.
Les médias, ils m'éduquent parce que on apprend tous les jours, donc du coup, ça nous fait réfléchir, ça nous permet d'être au plus proche en fait de l'information.
Non, pour moi, les médias m'ont pas éduqué.
Oui, il y a des articles qui sont très bien rédigés et qui participent effectivement à former mon point de vue.
Oui, d'une certaine façon. Hein. De toute façon, les médias ont toujours une vocation un petit peu d'éducation.
L'éducation aux médias se fait aussi avec les grands de ce monde. Dans le cadre de son Tour de France, BFM TV et vous, la chaîne était à Poitiers pour parler d'éducation aux médias et de la construction de l'information. La journée commençait à 14h au TAP Castille avec la projection d'un documentaire de la série La Ligne Rouge consacré aux IA, suivi d'un temps d'échange.
Un Américain a découvert à ses dépens les limites de la reconnaissance faciale.
Nous avons pu discuter avec Myriam Alma, directrice adjointe déléguée de la rédaction BFM TV et chef du service Ligne Rouge, Frédéric Boisset, rédacteur en chef Ligne Rouge et Quentin Bollier, grand reporter.
Comment est-ce qu'on fait de l'éducation aux médias et à l'information en tant que poids lourd du secteur de l'information ?
Plusieurs manières de le faire, ça c'en est une, c'est de venir rencontrer le public, c'est l'occasion d'échanger, c'est que c'est important d'expliquer ce qu'on fait et surtout de répondre aux fantasmes autour du métier de journaliste, de raconter concrètement comment on travaille et d'éviter qu'on puisse avoir des fantasmes sur notre métier.
Puis en étant aussi ouvert aux sollicitations des classes, des écoles, des lycées qui souhaitent visiter les studios, qui souhaitent rencontrer des journalistes, qui souhaitent avoir des interventions parce que c'est quelque chose de nécessaire et qui va sans doute l'être de plus en plus.
Selon plusieurs sondages, dont celui de la Croix-Cantar Publique, 17% des Français qui déclarent ne pas avoir d'intérêt prenant pour l'actualité. Aussi en ce qui concerne la crédibilité des médias accordée à ces mêmes médias, elle était en 2018 de 50% pour la radio, 38% pour la télé. Comment on prend en compte la défiance dans l'éducation des médias ?
de différentes manières. D'une part, en étant honnête et transparent, en informant sur nos sources, en disant la vérité. Ça fait aussi partie de ce qu'on fait aujourd'hui.
Ici à Poitiers, Radio Pulsar fait aussi de l'éducation aux médias. Vous pensez quoi de l'éducation aux médias au niveau local, faite par des associations notamment ?
Je pense que c'est là globalement que commence l'éducation aux médias et qu'au niveau local, il y a un lien direct parce que souvent le journaliste est quelqu'un qui habite la région concernée, qui connaît forcément les enjeux locaux, etc. Et donc c'est le premier lien que les gens ont, c'est très souvent en France le journal local et la presse locale et régionale jouent un rôle essentiel. Et effectivement, la presse locale est en première ligne finalement pour montrer son travail, expliquer dans quelles conditions elle donne des informations. Donc je pense que la presse locale est un rôle à jouer qui est très très important dans l'éducation aux médias et dans la relation avec le public.
On parle d'éducation aux médias. Mais et si les médias éduquaient eux aussi, comment on fait pour que les médias puissent éduquer le public ?
Sur l'antenne BFMT, toute la journée, il y a très régulièrement des gens qui viennent faire ce travail d'éducation sur l'actualité, qui viennent avec des tableaux, hein, des chiffres, des données, remettre en contexte, expliquer. En fait, notre travail, c'est d'éduquer le public toute la journée.
Il y a plein de choses qu'on fait pour essayer de rendre la manière dont on donne les informations la plus pédagogique, la plus didactique possible. On est conscient, médias en général, et on n'est pas les seuls à BFM, qui a effectivement un besoin de pédagogie, un besoin d'explication, un besoin de transparence dans où on va chercher telle info. Et c'est un effort qu'on fait tous les jours et qu'on va continuer à faire de toute façon.
Avec la venue de BFM TV, il est donc à noter que l'éducation aux médias, aussi populaire qu'elle soit, passe par les grands médias nationaux comme les petits médias locaux.
Si cette question de la fabrique de l'information et de l'éducation populaire vous intéresse, je vous propose de réécouter le podcast de notre émission spéciale enregistrée donc ce samedi. C'était lors des rencontres nationales de l'éducation populaire à Poitiers. Tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Le festival Écoutez-Voir débute aujourd'hui à Cap-Sud et jusqu'à vendredi. C'est porté par le Conservatoire de Grand Poitiers et Cap-Sud. Ce festival vous donne rendez-vous devant Médiasud, sur l'esplanade de Cap-Sud, au cœur de la cité belgeoise, au parc des Prémignons et dans les jardins familiaux, avec des artistes amateurs ou professionnels. Aujourd'hui, J'aime pas les enfants, c'est à 17h15 devant Médiasud. Quand Sarah Barquette arrive sur scène, rien ne va plus, c'est la catastrophe. Tony et David, les deux musiciens, lui ont encore joué un mauvais tour. Elle croyait être là pour le club du troisième âge, mais c'est un parterre d'enfants qu'elle découvre. Sur l'esplanade de Cap-Sud, plein de rendez-vous à partir de 18h30. C'est à tout vent, programme festif et dansant avec l'orchestre à vent des élèves de classe de CE2 de l'école Jules Ferry. Danse contemporaine et jazz à 19h, composition personnelle des élèves du conservatoire de Grand Poitiers. Le mariage, c'est du théâtre à 19h30, d'après le texte La réunification des deux Corées de Joël Pommerat. À 20h, chorale éphémère sous la houlette de la chef de chœur Perrine Vrignot. Cette chorale portée par Médiasud propose des chants de stade et chants de lutte. À 20h30, c'est du rythme Blues, programme de grands classiques du répertoire des musiques actuelles amplifiées. Du 4 juin au 5 juillet, donc ça commence aujourd'hui aux archives départementales, à la recherche de Saint-Exupéry dans la Vienne. On ne le sait pas, ou peu, mais Antoine de Saint-Exupéry, avant d'écraser son avion dans le désert égyptien et de rédiger son Petit Prince, se rend dans la Vienne. Que vient-il y faire ? Que vient-il y voir ? Parti sur les traces de Saint-Exupéry à la recherche du Petit Prince d'aujourd'hui, l'artiste et photographe Léon Dubois fait étape dans la Vienne. De sa rencontre avec de nombreux élèves du département surgissent des dizaines de cyanotypes, un procédé photographique monochrome bleu sur lesquels s'impriment leurs souvenirs personnels de l'œuvre de Saint-Ex. Et puis à 14h, je débute avec ChatGPT à l'espace Mendes France, apprendre à dialoguer avec le fameux ChatGPT et interpréter ses réponses. C'est à 15€ le plein tarif. Sur Pulsar, à 18h, c'est à l'Asso qui reçoit l'OCCE, l'Office Central de la Coopération à l'école. À 19h, c'est Slam à tout va. 20h, Pétale de Sakura. 21h, Culture Dub, avec toujours plein de choses à gagner, notamment pour les festivals Grand Bastringue à Cluny, la Tour Mélewatt à Saint-Quentin en Yvelines, ou encore Julianne Marley à Poitiers. Et voilà, donc à 23h, l'émission Novorama. Merci Cortex pour la réalisation technique. On se quitte avec quelques notes du Brésil et la référence Gilberto Gil. Bon après-midi en musique. À demain.
Bonsoir Genève. Merci beaucoup pour la présence enthousiastique vers la musique populaire du Brésil. Merci bien.
place to look at, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar. Vamos fugir.